Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Jean Rage, votre émission féministe lilloise de bimensuel du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2013. Je suis Zab et nous sommes avec, comme d'habitude, Anaëlle.
Salut.
Et Suzanne.
Salut.
Au programme d'aujourd'hui, nous allons parler de la putophobie qui a été vachement exprimée ces deux dernières semaines. On reviendra à la fois sur la loi de pénalisation des clients, enfin le projet de loi de pénalisation des clients, sur la vidéo des jeunes pour l'abolition, sur le dossier de Cosette et ses 55 bonnes raisons de résister à la tentation, et sur le manifeste des 343 ou 4, je ne sais plus.
343.
Voilà, salaud. Et voilà, pour commencer l'émission. Ensuite, Suzanne nous fera une petite chronique politique sur la réflexivité et nous parlera de...
du problème de parler à la place d'eux.
Voilà, exactement. Et enfin, nous terminerons l'émission sur une chronique d'Anaëlle qui nous parlera de Miwa.
Ouais, c'est ça.
De son vrai nom. Bon, on vous en parlera plus tout à l'heure. Et puis voilà, tout de suite, sans transition, on va passer à l'agenda. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous l'a pas présenté. Et il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur l'île, là, depuis un mois et demi. Alors, ce mardi 5 novembre, donc dans deux jours, à la Maison de l'Éducation Permanente, 1 Place de Lyon, il y a un forum sur l'égalité des droits et inclusion sociale des femmes immigrées qui sera organisé par le GRDR, donc Groupe de Recherche et de Réalisation pour le Développement Rural, qui est une ONG, et qui aura lieu donc de 9h30 à 16h30. Donc ce sera un forum sur l'égalité des droits et inclusion sociale des femmes immigrées, et ça aura lieu à la Maison de l'Éducation Permanente, 1 Place de Lyon, de 9h30 à 16h30. Ensuite, toujours en ce moment, il y a le festival Homo qui est organisé par les Flamants Roses au centre J'en suis, j'y reste, 19 rue de Condé. Et du coup, ce même mardi 5 novembre, à 20h, oui c'est ça, il y aura une discussion sur genre, sexualité et science-fiction. Le lendemain, le mercredi 16 novembre, toujours au même endroit, de 18h à 20h, un atelier art postal qui sera un échange de cartes postales et de créations, plus exactement, entre Lille et Cracovie. Et à 20h30, vous êtes conviés à une projection d'un documentaire qui s'appelle « Would you have sex with an Arab ?» suivi d'une discussion avec la réalisatrice du documentaire. Ensuite, samedi 9 novembre, de 9h à 19h, un stage d'autodéfense est organisé par le centre pour les personnes transsexuelles. Donc de 9h à 19h, toujours au même endroit, 19 rue de Condé, donc à Lille-Moulin. Le dimanche 10 novembre, donc le lendemain, à 12h, le brunch, je pense qu'il est mensuel, du centre est organisé. À 14h, il y a un atelier littérature et sida, où seront présentés des ouvrages qui parlent du sida ou d'expériences de personnes séropositives. Et à 15h, un concert, donc je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, Garconi et Vieille Dentelle. Donc ça, ce sera pour dimanche 10 novembre, toujours au même endroit, 19 rue de Condé. À Lille. Le lundi 11 novembre, enfin, la fin du festival, ça fait déjà deux semaines qu'il dure, et du coup, de 14h à 17h, il y a un atelier de création de sextoy, et il y aura aussi un espace de discussion autour du safe sex, et qui aura lieu donc de 14 à 17h au centre, et à 17h30, il y aura un pot de clôture du festival. Donc voilà, si vous voulez ne pas louper le festival Homo et que pour l'instant vous n'y êtes pas encore allé, qui est organisé par les Flamants Roses, vous pouvez toujours y aller.
En fait, c'est le festival Homo.
Voilà, exactement. C'est vrai que j'ai pas été très...
Non, mais voilà. C'est juste que oui, il y a une homonymie avec
voilà,
Homo,
c'est ça,
mais...
Ouais. Ouais. Et enfin, donc toujours, enfin dans deux semaines, donc juste avant la prochaine émission, le 16 novembre, qui sera un samedi, à 19h30, vous êtes conviés à une soirée projection débat du cycle dont on vous a déjà parlé, qui s'appelle cycle un enfant si je veux quand je veux comme je veux point d'interrogation. Et donc pour cette troisième séance, je pense. Oui, c'est ça. Vous êtes conviés donc à la projection du documentaire « Regarde, elle a les yeux grands ouverts » de Yann Lemasson et la commune d'Aix, qui traitera le procès du MLAC de Aix et donc des revendications du MLAC à l'époque. Et c'est toujours organisé à la fois par le planning, la Maison des Femmes et d'autres intervenants comme Lucille Ruot. Voilà pour l'agenda de ces deux prochaines semaines. Vous avez de quoi faire si vous ennuyez. Donc, allez-y, sortez de chez vous, quoi. Voilà, et tout de suite, sans transition, on revient donc sur le projet de loi de pénalisation des clients, la putophobie, etc. Donc voilà, ce dont on voudrait vous parler aujourd'hui dans l'émission, c'est que depuis 2 semaines à peu près, l'espace public a été complètement saturé de discours de haine, clairement, et des discours qui soit méprisaient les prostituées, soit en tout cas... appelé à la haine envers les prostituées et avait donc seulement des discours qui étaient très très méprisants. Donc une des premières productions qui a eu qui allait dans ce sens-là, c'est la nouvelle campagne des jeunes pour l'abolition. Donc ils ont réalisé une petite vidéo dans laquelle qui met en scène donc une jeune adolescente qui a des problèmes scolaires et qui est conviée avec ses parents à une discussion avec la conseillère d'orientation et qui en gros lui dit lui propose d'aller dans une formation, je pense que ça s'appelait formation fellation, qui en gros lui ouvrirait les portes au travail de travailleuse du sexe, quoi, en gros. Et du coup, cette vidéo est complètement mal foutue et ils ont encore une fois rien compris avec ces campagnes abolitionnistes, puisqu'en gros, la vidéo est construite comme une fiction d'anticipation. Et donc, dans cette fiction, dans le scénario qui est expliqué, la femme a gagné le droit d'être exploitée en étant mineure dans une maison close suite, en gros, aux luttes féministes. Et à la libération sexuelle de la femme. Donc c'est un scénario qui est absolument improbable, il me semble. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les filles, mais en tout cas les luttes féministes ont pour but plutôt de manière générale à permettre aux femmes de se réapproprier leur propre corps et non pas de faire en sorte que d'autres puissent se l'approprier. Et c'était pour moi clairement une vidéo qui était faite aussi contre le stress et qui essayait de décrédibiliser leurs revendications en les faisant passer pour autre chose qu'elles ne le sont, puisque le STRAS, donc syndicat du travail sexuel, n'a jamais eu pour revendication l'ouverture de maisons closes ni l'ouverture de formations pour former des personnes au travail du sexe, que je sache.
Non, c'était juste que je voulais dire que il n'y avait pas de revendication de réouverture de maisons closes, justement, et que cette vidéo reprenait des arguments qui n'en étaient pas et qui n'avaient aucun fond.
Voilà, donc des arguments qui n'ont jamais existé
dans une société réglementariste qui ne va pas du tout dans le sens des revendications des travailleurs sexuels.
Voilà, exactement. Donc à la limite, éventuellement, dans une société fictive, ce serait des revendications venant de milieux masculinistes plutôt qu'autre chose, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc voilà. Donc pas de fondement vraiment scientifique sur les revendications actuelles. Et en plus, elle est vraiment mal foutue. Parce que justement les luttes féministes et les revendications du STRAS, etc., sont donc, comme je le disais, visent une certaine forme d'empowerment des femmes, de réappropriation de leur corps. Et là, dans les vidéos, c'est tout à fait le contraire qui est montré. Enfin, j'imagine que c'était le but quand même, puisque la jeune fille vient, on lui laisse pas la parole et elle est complètement dépossédée de à la fois ses choix futurs d'orientation, de travail, etc. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'est une lutte, enfin de ce que revendiquent les groupes et collectifs féministes de manière générale.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que du coup tu soulignes, en fait, à mon avis, le projet, enfin je sais pas, j'ai pas vu cette vidéo. De ce que tu m'en dis, je me dis que le projet est donc de montrer les prostituées comme des victimes, en tout cas d'en faire un tableau victimaire et d'en faire un tableau assez apocalyptique, enfin quelque chose de ce genre-là. Et ce que tu dis est très intéressant, parce que justement, oui, en effet, je vois pas en quoi on pourrait rattacher à une cause féministe ou des enjeux féministes des représentations aussi faibles, enfin aussi disempowering, quoi. Enfin, l'anglais est difficile à bien prononcer, puis ça fait tout de suite un peu snob, mais oui, voilà, c'est ça. Et donc représenter des jeunes filles qui sont complètement manipulées, certes, l'oppression elle est là, mais mais c'est pas du tout, enfin ça n'est en aucun cas un moyen à mon avis stratégique d'un point de vue féministe quoi. Puis c'est enfin, bon, bref, et c'est des jeunes qui sont
jeunes pour l'abolition, c'est un collectif.
Il y a des garçons et des filles dedans.
Oui.
OK, d'accord.
Ouais, parce qu'en plus la fille dans la vidéo, pour rebondir sur ce que tu dis Suzanne, n'a vraiment aucune place, enfin elle a vraiment aucune place, elle est coincée entre enfin je pense que c'est ça ses parents et la CPE, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais non, c'est la conseillère d'orientation, mais c'est
ouais, OK, ouais. Enfin en gros, elle a vraiment aucune place, elle a pas, enfin elle peut pas parler, elle est enfin limite elle est complètement niée, enfin c'est tout est décidé pour elle quoi.
Voilà, donc une vidéo que moi j'ai vraiment vraiment pas aimée, qui est tout à fait contre-productive, d'autant plus qu'au lieu de d'essayer de concentrer enfin d'essayer de expliquer, enfin de mettre en valeur, en avant par exemple certains arguments de pourquoi il faudrait essayer de enfin de diminuer la prostitution en France, au lieu de mettre en avant des arguments tels que les mauvaises conditions de travail, la précarisation des prostituées, la traite des esclaves ou le manque de d'intervention du gouvernement sur ces questions-là. Elles ont juste vraiment développé. Enfin, la vidéo développe juste un discours de haine qui est enfin méprisant à l'égard des prostituées, et en plus dans la fiction d'anticipation qui est proposée, elle est totalement construite pour moi sur des fantasmes masculins dans lesquels justement ce serait un service complètement la prostitution, hein, un service complètement institutionnalisé aux dépens des prostituées et en faveur des clients rois qui feraient ce qu'ils veulent, en gros. Voilà, donc première grosse démarche putophobe. Donc ça, c'était il y a une semaine ou une semaine et demie, quelque chose comme ça. Et bien sûr, si vous regardez sur les réseaux, on vous mettra quelques liens sur la page Facebook. Vous avez de quoi lire si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet. Ensuite, cette semaine, c'est le magazine Cosette qui a fait preuve d'une putophobie assez extraordinaire avec son fameux dossier 55 bonnes raisons de résister à la tentation, qui en plus est, pour public, pour cible, des hommes ayant recours à la prostitution, enfin au service de prostituées, soit qui y ont pensé.
C'est intéressant déjà la cible.
Voilà.
Enfin, c'est intéressant le lectorat qui est visé parce que peut-être que un des enjeux du féminisme qui est évidemment à remettre en cause, enfin à remettre en question, à questionner la non-mixité, etc. C'est un sujet en soi, etc. Mais en tout cas, à la base, c'est quand même, enfin, produire un discours, tout ça, un discours et etc. par et pour les femmes. Donc déjà s'adresser en plus à un lectorat masculin, enfin, c'est déjà un peu bizarre, je trouve.
Voilà. Et ça aurait dû nous mettre sur la piste parce qu'ensuite, donc parmi ces 55 bonnes raisons, il y a que des arguments complètement putophobes, racistes, néocolonialistes et j'en passe, et transphobes aussi, voilà, c'est ça. Je vous en lis juste deux trois que j'avais sélectionnés pour vous faire une idée pour ceux qui en ont pas encore entendu parler. Un des arguments, par exemple, parce qu'il y a toujours moyen de se fabriquer une pute acceptable avec une pastèque trouée, ce qui est quand même, c'est inadmissible de dire des choses pareilles.
Ah, c'est vraiment dégueulasse.
Sachant qu'il parle d'être humain, donc là, ça veut dire qu'en gros, il considère qu'une pastèque trouée c'est plus baisable qu'une pute.
Non, mais c'est en plus reproduire le stigmate, enfin la représentation de la prostituée comme un trou, quoi.
Ouais, c'est ce qu'on
dit, ouais, mais un horrible, trou à bite, quoi. C'est horrible,
voilà, comme un objet sexuel.
C'est-à-dire qu'en fait elles en font des objets, quoi. Mais
donc tout l'inverse de ce que devrait faire même si dans nos idéaux on veut combattre la prostitution, je vois pas comment on peut le faire de cette manière-là. Je vois pas quel est l'intérêt de considérer que les putes sont des trous à bites pour faire avancer la lutte contre la prostitution.
Ah non, mais
ça n'a aucun intérêt.
Ouais, c'est à gerber. Hein.
Un autre argument, parce que vous n'êtes jamais sûr que cette fille, entre guillemets, qui vous excite tant n'en a pas une plus grosse que la vôtre. Transphobie, ouhou, génial. Parce qu'une mère maquerelle africaine qui vous fait avorter à coups de pied dans le ventre n'a rien d'une bonne mère. Génial, racisme, néocolonialisme.
Mais alors ça, je comprends même pas en plus, j'ai même pas compris là.
En gros là, c'est une référence à mon avis aux traites d'êtres humains dans lesquelles sont impliquées des personnes qui, bon là en l'occurrence une maquerelle africaine qui importerait des du bétail africain, là on pourrait parler de ça carrément, et qui maltraiterait à ses propres prostituées, quoi. Une autre, parce qu'une pipe à 10 euros, c'est comme un parfum à 20 euros, ça pue. Bon, on s'arrête là, en fait. Voici une petite qui est mais vraiment encore, enfin, complètement inadmissible.
Ouais, parce celle-là, elle est vraiment pire.
Parce que quitte à se taper une fille qui n'a pas envie, autant la violer, c'est moins cher. Entre parenthèses, mollo, on déconne. Là, ils ont complètement dépassé les bornes. Je sais pas comment un comité de rédaction a pu valider des articles.
On dirait que c'est une bande de machos qui a écrit, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais, on a l'impression que Marie Bigard est venue au comité de rédaction.
C'est
quoi,
exactement ça, ouais. C'est clair. Tu peux rassembler tous les machos médiatiques, là, Éric Zemmour et compagnie, là, j'en passe, Bec BD, et voilà. Ils auraient pu tout rêver écrire un truc dans le genre.
C'est complètement.
Une espèce de cynisme machiste, là. Fin...
C'est complètement inadmissible de considérer. Un certain nombre d'individus de la sorte, quoi. Ça me paraît complètement inimaginable aussi, quoi.
On se doutait déjà que Cosette était douteuse sur son intérêt dans le fond, enfin,
ou sur ses
et sur même dans ses articles de fond, quand même, j'ai toujours trouvé assez superficiel, en fait, tout en voilà quand même continuant à le consulter de temps en temps, mais en général je le trouve quand même assez léger dans le ton, pas super impliqué, puis en fait pas extrêmement rigoureux, enfin mais alors là c'est carrément
non, mais là ils ont dépassé les bornes, et du coup je trouve que à l'heure où on parle vachement, enfin en tout cas où pas mal de collectifs ou d'associations féministes parlent d'intersectionnalité et de l'intérêt de croiser les questions de genre, de race, de classe, etc. Là, pour le coup, Cosette a réussi à intégrer la question d'intersectionnalité dans ses commentaires, mais en s'en servant très mal, parce qu'ils ont réussi à être
à l'envers, en fait.
Des connards intersectionnels, quoi, en gros. Enfin, comment dire. Ils ont réussi à croiser toutes les questions, mais pour mépriser les individus qui sont aux intersections de ces différentes identités, quoi. Donc voilà, ça c'était pour Cosette.
Des connards intersectionnels.
Voilà, c'est
bien.
Ça. C'est exactement ça.
Des connasses intersectionnelles, je pense que ce sont. Enfin, Cosette, est-ce que c'est une rédaction exclusivement.
Le comité de rédaction.
Féminine.
Je pense qu'il est composé. Enfin, il y a.
Non, c'est pas exclusivement féminin.
Voilà, c'est ça.
D'accord, ok.
C'est sûr et certain. Et donc enfin, pour un troisième événement ultra putophobe, vous avez certainement entendu parler du manifeste contre la loi de pénalisation des clients de prostituées, qui a été écrit par donc le manifeste qui s'appelle « Touche pas à ma pute », qui a été écrit par un ensemble de personnes dont... Nicolas Bedos, Éric Zemmour dont on vient de parler, Frédéric Beigbeder, Basile de Kauf, donc le mari de Frigide Barveau, enfin tous ces connards masculinistes là, ou encore l'avocat de DSK, bon ça nous étonne pas trop quoi, et qui sont déjà appelés les 343 salauds, et donc qui revendiquent le droit de s'approprier et de jouir du corps des autres, en se faisant appeler les 343 salauds, en reprenant le titre du manifeste des 343 salopes qui avait été initié par Simone de Beauvoir en 1971 et qui revendiquait le droit à l'avortement et donc
reprise de possession.
Voilà, c'est ça. La réappropriation du corps des femmes par les femmes et non pas par la société qui leur dirait vous pouvez ou vous devez avoir un enfant même si vous ne voulez pas. Donc là, ils ont quand même réussi à faire un putain de coup de...
Et touche pas à ma pute, c'est une référence au slogan qui avait été lancé par SOS Racisme, touche pas à mon pote. Et donc du coup, c'est se référer, c'est prendre en plus comme s'il se réclamait d'une lignée des mouvements antiracistes et féministes. C'est strictement abject.
Enfin, ouais, ou ça pourrait...
D'ailleurs, je reprends le terme qu'a utilisé Morgane Merté, je crois, ouais. dans sa réponse, mais c'est abject. Enfin, de se réapproprier des luttes qui en aucun cas partaient justement des dominants. Enfin, je veux dire, justement, ils parlent en tant que clients, en tant que dominants qui ont justement dans leur droit de s'approprier le corps de quelqu'un. Enfin, c'est juste, mais prendre le problème à l'envers et puis C'est complètement absurde en fait.
Ouais ouais, non mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était pour parler de la putophobie qu'il y a en ce moment. On reviendra pas sur le pour ou contre le projet de loi de pénalisation des clients, peut-être qu'on en parlera à une autre émission. Je voudrais signaler que ça pose un problème pour pas mal de gens si vous squattez un peu les réseaux sociaux. On vous mettra quelques liens, comme j'ai dit auparavant. Et il me semble que il y a quelque chose vraiment à faire parce que entre les discours homophobes qui se sont hyper développés après le débat pour le mariage pour tous et maintenant avec ce projet de loi contre la pénalisation, on a un phénomène de médiatisation de tous les discours de haine qui est pas normal et il faut absolument faire, je sais pas quoi faire pour l'instant, mais il faut qu'on fasse quelque chose collectivement pour empêcher cette marée humaine de discours de haine, homophobie, transphobie et putophobie et tout ça.
Il y avait une manifestation sur Paris la semaine dernière, le week-end dernier, samedi dernier. Mm-mm. Justement.
Et puis c'est Morgane Merteuil, je crois, qui dans un article sur Rue 89 rapproche l'homophobie de la putophobie. En tout cas, enfin là, par rapport, elle met en parallèle les discours actuels putophobes avec les discours homophobes qui ont pu émerger de la manif pour tous. C'est un article assez bien fait.
Voilà, on vous mettra le lien sur notre page Facebook. Tout de suite, on vous passe une petite chanson de Monsieur Roux, Ma mère la pute, qui est une réappropriation de l'expression de l'insulte ta mère la pute. Et voilà, on vous laisse écouter. À tout de suite.
Ma mère est une putain, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Il paraît que toute la rue lui est passée dessus. C'est pourquoi j'en conclus que les voisines sont cocues. Et toutes ces vieilles rombières qui font rien que nous insulter sont des langues de pute, dit ma mère. Et elle maîtrise le sujet quand elle nous bave dessus. C'est juste qu'elles sont vexées que ma mère on lui passe dessus et qu'elle on leur passe à côté. Parce que ma mère est tellement belle que les voisins font la queue pour coucher avec elle plutôt que de rentrer chez eux. Ils viennent claquer leur salaire dans les bras de ma mère pour la douceur d'une caresse et la chaleur de ses fesses. Et tous mes copains qui me traitent de fils de putain sont jaloux, c'est certain, eux qui sont des fils de boudin. Car même en étant payé, y aurait pas un volontaire capable de bander pour le cul de leur mère. Parce que ma mère est une catin, c'est ce que disent les voisins. Elle fait le tapin du soir au matin. Mon père lui est un enfoiré, vu qu'il s'est barré le jour où il a découvert qu'une pute pouvait être une mère. Personne sait qui c'est, mais il serait du quartier. Ce qui fait dire qu'il y a un voisin qui est le père du fils de la putain. Et les copains d'à côté commencent à flipper d'être peut-être de mes demi-frangins et des beaux fils de putain.
Thank you.
Voilà, on est de retour. Vous êtes de retour sur Genrage. Il est 16h30 et on est dans la 17e émission. Aujourd'hui, c'était Monsieur. Vous venez d'écouter Monsieur Roux, ma mère la pute. Et là, je vais vous parler. Donc c'est Suzanne qui parle. Et je vais vous présenter un truc. On en discutera toutes ensemble, toutes les trois. Mais en gros, la question de parler à la place d'eux, j'ai pas trouvé de formulation plus exacte parce que j'avais pas envie d'utiliser un vocabulaire super jargonnant en mode réflexivité féministe, subjective. Activation politique, et je me suis dit, parler à la place d'eux, c'est une manière simple de dire ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est parti de plusieurs situations qui m'ont amené à me poser la question. Déjà, on a peu abordé en fait à l'émission, ce qui n'est pas un choix enfin intentionnel, mais ça s'est fait comme ça. On a peu fait des débats sur la façon dont on envisageait méthodologiquement, on va dire, nos luttes sur la question des privilèges, la question du dominant-dominé, ce genre de choses. On l'a peu fait, alors que ce sont des débats qui sont extrêmement importants et qui sont conduits dans les milieux militants, dans les groupes de parole, de conscientisation, etc. Donc je me suis dit que c'était déjà ça pouvait être intéressant de trouver une autre forme aujourd'hui pour ça, voilà, très brièvement. Ensuite, c'est parti aussi de plusieurs situations que j'ai croisées ces dernières semaines, via les cours, via les soirées, via ce genre de choses, les rencontres, etc. Via les cours, ça a commencé parce que c'est des questions que je me pose très souvent. Je pense qu'on se la pose assez souvent, c'est-à-dire quelle place on a dans le discours, quelle place on peut donner à son discours, à un discours politique, en tant que sujet politique ou en tant qu'allié politique. C'est-à-dire savoir est-ce que tu es un allié de la lutte ou est-ce que tu es un sujet de ce discours-là et de cette lutte. Est-ce que toi-même, tu impliques ton vécu dans ce sujet du politique ? Le sujet femme, le sujet gouine, le sujet PD, le sujet trans, le sujet noir ou la sujette noire. Enfin, justement, après, tout ça est très complexe. Et moi, je suis évidemment, par exemple, pour parler de moi, je suis en dehors de certaines identités, comme l'identité noire, par exemple. Voilà. Je suis blanche et du coup je bénéficie du privilège blanche, etc. Bon, ça suffit pas de dire ça et c'est pas pour s'auto-flageller que je dis ça. C'est parce que vraiment je pense que ça peut être intéressant d'être vigilant à ce genre de choses. Je donne des exemples. La dernière, c'était à une soirée il y a 10 jours, hein, quelque chose comme ça, un anniversaire d'une pote. Enfin bref, je raconte un peu ma life. Mais et en fait, il y avait une conversation entre deux personnes, une personne que je connaissais, enfin entre une meuf et un mec, je les genre parce que c'est important, et en gros il parlait des rapports de sexe et du féminisme homme-femme, quoi, comme d'habitude quand tu dis que t'es féministe on t'interroge sur homme-femme, c'est-à-dire sur le rapport homme-femme, c'est-à-dire vraiment la base de la base de la base qu'on aimerait bien parfois arriver à dépasser un petit peu de temps en temps, parce que c'est, mais les gens quand tu dis féministe ils se disent elle est contre les mecs, enfin ça c'est un topos de la féministe enragée, on le connaît très bien. Voilà, du coup c'était un remake de ça que je pense on vit assez souvent, et donc le mec prenait la parole vraiment 90% du temps, c'est-à-dire qu'il ne la laissait pas parler une seule fois. Moi ça a un peu monté, j'écoutais, j'étais là, la colère a un peu monté, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais, enfin je veux dire tu la laisses parler ou pas, enfin c'est quoi ça, quoi. Et bref, et après à un moment donné je me suis impliquée dans la conversation, alors je vais pas dire si j'ai eu raison ou pas, de toute façon c'est pas la question aujourd'hui, c'était une soirée et puis peu importe, mais en fait il était totalement dans un amalgame des discriminations et de la question dominant-dominé, en disant on subit tous des discriminations, allez faire une espèce de gros package là. C'est difficile pour tout le monde, machin. Enfin bref, en gros, il était un peu con et il n'avait pas compris grand chose. Mais en gros, ça lui venait pas à l'esprit de laisser un espace de parole et ça lui paraissait pas important. Et en fait, et là, je peux mettre également en cause parce que ça me paraît important également de pas me considérer comme quelqu'un qui est en dehors de ces problèmes là. Enfin, je pense que c'est de la même manière, je peux avoir tendance à, par exemple, lorsqu'il s'agit de, par exemple, il y a une émission, j'ai parlé du féminisme noir. Et donc, alors que je suis complètement en dehors de ces enjeux, et je pense qu'on peut en effet pas comprendre les enjeux d'une oppression si on ne la croise pas de façon réelle, enfin matérielle en fait. Et donc, ça pose. Alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça pose en question en termes de lutte ? Est-ce que il faut pour autant abandonner toute lutte en antiraciste, par exemple, si on est blanc ? Est-ce qu'il faut abandonner toute lutte auprès des minorités sexuelles si on est hétéro ? Ou toute lutte en tant pour les femmes si on est un homme, etc. Je pense que la question ne doit pas se poser en ces termes-là, mais évidemment c'est toute la question que posent les alliés, quoi, c'est-à-dire être allié ou être soi-même sujet politique. Et ça me fait penser à un article du coup justement du bouquin rassemblé par Elsa Dorlin. Féminisme noir,
anthologie des féminismes noirs
américain, enfin, africain américain, ouais. Et un article de Hassel Karbi qui s'appelle Femme blanche écoute, et le titre est assez représentatif, c'est-à-dire que bon, en plus par exemple je suis très très bavarde, donc j'ai un peu l'habitude de monopoliser la parole, et c'est un petit problème surtout quand je parle de choses qui ne me concernent pas directement, et ça me fait penser à un sujet de recherche en fait que conduit une pote à moi, enfin quelqu'un que je connais du moins on va dire, et qui a travaillé sur l'impossibilité, non, je transforme certainement son sujet, c'est juste pour amener à une autre réflexion sur l'impossibilité d'être sujet dans la domination en tant que dominant, c'est-à-dire sur le, et donc ça m'a vachement question, on en a un petit peu très vite fait parler et après j'y ai pas mal repensé, c'est-à-dire qu'en fait donc c'est un mémoire de philosophie politique qu'elle a fait, etc., donc enfin je vais pas rentrer dans le détail terminologique et théorique, mais l'idée c'est que en tant que dominant, donc que ce soit enfin dans toutes les oppressions possibles, et je vais pas les énumérer, enfin c'est plutôt en termes du coup la philosophique que j'essaye un petit peu de réfléchir, mais c'est l'idée qu'il n'y a pas de vécu du dominant en fait, il n'y a pas de subjectivation du dominant possible, donc en fait ça m'a questionné aussi sur pas mal de recherches qui sont faites, par exemple sur des ouvrages qu'on entend qui sont publiés autour des inconvénients de la domination, par exemple les inconvénients de la domination masculine pour les hommes, et je pense que ces ouvrages-là sont en fait pas sont peut-être un peu limites, enfin pas limites, sont pas horribles et détestables, mais ils peuvent être questionnés dans leur légitimité, parce que il s'agit pas justement de rester sur cette binarité oppressé oppresseur, mais c'est juste que réfléchir sur les inconvénients, la domination, etc., je sais pas si c'est si intéressant que ça en termes de subjectivation politique. En fait, je vais m'expliquer un peu plus. Par exemple, j'ai repensé au documentaire des rétrospermato qu'on a vu à l'hybride, enfin auquel je suis allée, pas à l'hybride, au cinéma de l'univers, et qui était organisé par notamment Lucille Rouault, et qui du coup montrait des hommes qui avaient initié et fait partie de groupes de parole non mixtes, en non mixité masculine, dans les années 80, sur le modèle des mouvements des groupes de parole non mixtes de femmes dans les années 70, et pour remettre en cause leur masculinité. Et il faut remettre dans le contexte, on est dans les années 80, évidemment qu'il n'y avait pas le même discours qu'aujourd'hui. Ceci dit, on les entend plusieurs fois dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que la masculinité, etc. Et en fait, questionner ce que je trouve de problématique là-dedans, c'est qu'il y a en fait finalement une réessentialisation de la masculinité qui se fait à leur insu, enfin qu'ils font à leur insu, c'est-à-dire qu'ils circulent entre hommes hétérosexuels, et certes ils remettent en cause certaines représentations de la masculinité, mais tout en est, il n'y a pas vraiment de, il y a une invisibilisation totale de l'oppression des femmes en fait, hein. Et du coup je me demande en fait finalement quelles sont les limites de ce genre d'initiative, je me demande vraiment, enfin c'est intéressant, mais je pense que ça peut être également questionné.
Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est intéressant de pas ignorer les vécus de manière générale, et il y a pas de raison de dire non, t'as pas le droit de parler parce que tu vis quelque chose de moins oppressant que moi. Mais de là en faire des ouvrages, etc. Et surtout, ça pose le dominant en position de victime alors qu'il n'est pas dans le phénomène de domination en soi. C'est-à-dire que puisqu'il est dans une position de dominant, pourquoi se montrer en tant que victime, alors que, enfin, même si j'aime pas le mot victime, même dans le phénomène de domination, j'ai pas envie de parler des femmes victimes de la domination masculine non plus, quoi. Mais c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une manière de victimiser son propre vécu, alors qu'il est, alors qu'il est dominant. C'est juste, pour moi, même si je suis pas un homme hétérosexuel dominant, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est aussi juste le fait, enfin, c'est un peu le fait, comment dire ça? C'est mal vivre le fait qu'on ait un certain nombre de privilèges, et même si on n'a pas choisi de les avoir et qu'il faut penser ces privilèges et essayer de le moins possible, comment dire, en profiter, quoi. C'est juste ça pour moi, c'est mal vivre le fait qu'on ait des privilèges qui nous ont été donnés à la naissance, et soit pas vouloir les voir et du coup c'est se poser en victime en disant ben nous aussi ça nous pose un problème, quoi.
Enfin, c'est ça. Et justement, je rebondis du coup sur ce que tu dis, parce que finalement, je pense que la révolution, elle est pas du côté des dominants. Enfin, la révolution, enfin, je veux dire, je parle pas de révolution, genre la révolution, mais l'aspect radical des luttes n'est pas du côté des dominants, quel qu'il soit, dans quel que soit le, enfin. Et ça ne peut partir que d'une espèce de conscientisation, de réappropriation justement d'une identité, enfin de construction d'une identité. Et après, ça ne veut pas dire pour autant que, par exemple, il n'y a pas d'histoire. Au contraire, ça ne veut pas dire que, par exemple, il n'y a pas d'histoire de la blanchité. Ça veut dire, c'est pas justement, ça peut être aussi un enjeu de la subjectivation politique de mettre à jour, par exemple, l'hétérosexualité comme une culture et non pas comme une espèce d'universel,
normalité,
comme un truc atemporel, anhistorique, etc. Justement, c'est quand même questionner, enfin, c'est considérer que le statut de minoritaire est historique, etc., qu'il est construit socialement et du coup qu'il n'est pas juste comme la nature l'a fait ou je sais pas quoi. Enfin, et voilà, du coup, en fait, ça m'a fait penser à un événement politique, enfin, qui s'est pas passé un jour à un moment donné, mais historique et assez connu, et je me dis ça peut peut-être aussi nous questionner nous, enfin hein, voilà, c'est en fait dans les années 70, quoi, je pense qu'on en a déjà parlé, enfin je sais pas, mais en gros dans les mouvements féministes dans les années 70 en France, je termine là-dessus. En fait, en gros, il y avait la question, enfin les luttes sont principalement se concentrer sur l'avortement, la contraception, etc. Et le sujet femme était donc, et ça a permis de construire un sujet femme qui s'est construit en fait comme sujet hétérosexuel, mais son hétérosexualité était invisible en fait. C'est-à-dire que la lutte pour l'avortement et la contraception quand même concerne en grande majorité, enfin évidemment qu'on peut trouver des exceptions, ouais, et tout, mais en tout cas dans l'idée, il est associé à un vécu de femme hétérosexuelle. Et en fait, le truc, c'est que c'est, au bout d'un moment, des lesbiennes se sont mis à parler, quoi. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas eu d'espace pour penser le vécu lesbien, qu'au bout d'un moment, il y a eu aussi, peut-être, des réactions de séparatisme. C'est-à-dire, nous, on va créer un groupe autonome, pour penser notre vécu spécifique, etc. Et du coup, je me dis à quel point c'est important de penser toujours, aux minorités, à remettre en question ses privilèges, même à l'intérieur même, même si on est toutes les trois on vit en tant que femme, etc. Mais
femme cis, du coup.
Femme cis, par exemple. Voilà, par exemple.
Ça,
ouais,
c'est une manière.
De... Voilà, par exemple, ouais. Et que du coup, on pourrait tout à fait, pas forcément raconter notre vie parce que la question n'est pas là, en fait, justement. Mais en tout cas, visibiliser peut-être un peu plus nos privilèges. Et ça me fait penser à des discussions, quand t'es dans des discussions justement sur les questions de l'avortement, etc. Souvent, on te dit couple, relation, en fait, en sous-entendant hétérosexuel, par exemple, sans se dire à un moment donné qu'il y a un problème. Mais ceci dit, c'est pas une condamnation que je fais, c'est plus des constats, quoi.
C'est une invitation au questionnement de notre propre statut et de nos privilèges.
C'est ça.
Dans notre militantisme, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ouais, parce que ça veut pas dire qu'on ne peut pas aborder les sujets auxquels on n'est pas forcément identifié, auxquels on s'identifie pas. Mais c'est vrai que, ouais, une nécessité de remise en question. Presque perpétuel pour éviter les amalgames, les clichés, les stéréotypes qu'on entend trop souvent.
Mmh. Voilà. C'était super intéressant en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Moi aussi.
Et c'est un sujet hyper complexe, et par contre, malheureusement, en gros, dans tout ce qui est mouvements politiques nationaux, ou d'envergure un peu plus importante que des mouvements purement locaux et avec un nombre de militants réduit, il y a toujours cette des possessions, des subjectivités, ou dans lequel finalement le leader entre guillemets qui est choisi ou quoi n'est pas forcément sujet des luttes en soi quoi.
Ouais.
Enfin, je pense par exemple aux partis politiques qui sont pas les partis politiques dans lesquels les militants sont rarement finalement mis dans des positions où ils ont plus accès à. Je m'en mêle les pinceaux. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, les représentants des partis sont, de manière générale, pas toujours sujets des propres revendications qui posent, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire.
Ouais.
Ok.
Tout à fait.
Tout de suite, on vous met une chanson de Miwa, Meke Meke, et Anaëlle nous en parlera un peu plus en détail tout de suite, juste après, et nous parlera du personnage de Miwa. À tout de suite.
黄昏時港町の酒場の片隅で癒やす酒に果物色男別れの杯酒屋よ涙を拭いておくれ可愛い父分かってるだろう俺は海の男だいメケメケこれっきり会えないかもしれぬメケメケお前も 発車で暮らしな太い腕に抱かれたまま泣きじゃくる色女ブロンドの髪青い瞳やいやをしながらねえあんた私一人置いてきぼりはやんだかわいいちょっと行かないでよ私は死んじゃうよメケメケこれはな大きな毒なこったよメケメケ釣れない男もいたもの時は過ぎて汽笛が鳴る来る時が来ました男は立ち女すがる引きずられながらも思い出の石畳に投げ出される女よ船を目指し走る男叫ぶ女を捨ててメケメケバカロ情なしのケチンボメケメケ手切れのお金もくれない諦めて帰ろうやがて月も出る港
Vous êtes de retour sur Jean Rage, c'est Anaëlle qui vous parle. Il est 5h moins le quart. Donc vous êtes toujours sur RCV 99 FM. La chanson qui vient d'être passée est une chanson de Miwa, donc Meke Meke, qui est en fait une reprise en japonais de Meke Meke, mais qu'est-ce que c'est d'Aznavour. Alors Miwa, de son vrai prénom Maruyama Akihiro, est une chanteuse japonaise née en 1935. Alors là se pose la première difficulté de mon portrait, c'est que Miwa est née homme, en tout cas de sexe masculin, et dans son parcours personnel que je vais présenter un petit peu plus tard, il a été amené à se travestir et donc avait une vie publique et professionnelle, d'abord professionnelle d'ailleurs, en tant que femme. En même temps, il n'était pas transsexuel, donc je risque de mélanger un peu les pronoms parce qu'il le revendiquait assez fortement. Sa double identité de genre, on va dire. Donc je verrai, je dirai il ou elle selon les envies. Alors, c'est donc Miwa est née à Nagasaki en 1935. Alors, la plupart, les parties les plus importantes de sa vie se déroulent après-guerre. Il est lui-même rescapé de la bombe atomique qui est tombée sur le Japon pendant la guerre froide. Pour une biographie rapide, il entre à l'Université nationale japonaise de musique à 15 ans, donc il se destine à une carrière de musicien. Mais il, très vite, donc vers 17 ans, il commence à chanter dans des bars à putes fréquentés par des GIs, travestis, là déjà, donc en tant que chanteuse. Et après ça, il chante dans des cabarets de Ginza. Donc Ginza, c'est un quartier du Japon, pour le dire rapidement. Voilà, donc en fait, il joue dans ces cabarets-là les travestis, la séductrice, et puis il a un physique assez androgyne. Et il a énormément de succès avec ses rôles de travesti dans ces cabarets-là. En 1957, il sort un premier 45 tours, donc Meke Meke, qu'on vous a passé tout à l'heure. Il chante en femme. Alors en fait, c'est à partir de ce moment-là, alors surtout ensuite, dans les années, en 1958, quand il commence à faire du cinéma, que sa double identité va vraiment être revendiquée. Parce que à cette époque-là, quand il commence à faire de la chanson, il se produit en tant que chanteuse. Professionnellement, il se produit en tant que femme. Et au quotidien, dans la vie de tous les jours, il porte des habits d'homme. Et donc en 1958, il débute au cinéma dans le film Être femme de la compagnie Toho. C'est juste une anecdote, mais quand il arrive sur le plateau, par exemple, au début de ce film, il arrive habillé en homme. Et en fait, il est de très petite taille, il fait 1m61, et donc il avait des remarques plutôt désobligeantes des personnes sur le plateau et des personnes en général, même quand il commençait à être connu et qu'il pouvait être reconnu dans la rue, etc. Habillé en tant qu'homme, il se sentait humilié, en fait. Et du coup, j'ai d'ailleurs eu, à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où il fait du cinéma et où il commence à être humilié parce que tout le monde dit qu'il est très petit, qu'il ressemble à un enfant, il va commencer à s'habiller en femme au quotidien, donc vraiment à se travestir de manière permanente. J'ai d'ailleurs une citation, il dit, alors en fait, la citation que je tire pour la situer rapidement est tirée d'un documentaire d'un réalisateur français qui s'appelle Pascal-Alex Vincent, qui est sorti en 2010 et qui s'appelle Miwa à la recherche du lézard noir. Donc le lézard noir, je vais en parler un petit peu plus tard, c'est un film japonais qui est sorti en 1968, dans lequel jouait Miwa, et qui a eu un succès absolument phénoménal au Japon. Et donc Miwa explique dans ce documentaire « Très vite, je me suis dit que plutôt que d'être regardée de haut en bas, je n'avais qu'à faire en sorte qu'on me regarde du bas vers le haut, puisque les gens, se jugent sur leur apparence et qu'il me fallait porter des talons hauts pour être admirée, je me suis dit que je m'habillerais en femme tous les jours. Et en effet, cela a tout changé du jour au lendemain. » C'est quand même une histoire bizarre, non ? Donc voilà, il est vraiment reconnu et admiré, plébiscité, etc. Quand il est travesti de manière permanente, quand il arrive sur le plateau avec des talons hauts, etc. Et donc à partir de... Voilà, là c'est vraiment la double identité qui est mise en jeu ici, parce qu'il vit comme une femme. D'ailleurs je dis « il » depuis le début, j'avais dit que ça me poserait problème, en fait je dis « il ». Il vit comme une femme au quotidien, professionnellement et après personnellement. Et en même temps, il tourne nu dans des films, dans le film d'ailleurs de Tsuji Terayama, dans les premiers films underground de ce réalisateur, il est complètement outé d'ailleurs, il affirme son homosexualité d'ailleurs à une période où le fait d'être un homosexuel outé dans le cinéma japonais était un frein. Là c'est plutôt pour lui un tremplin. Il joue vraiment sur cette double personnalité. Et d'ailleurs, pour parler de son homosexualité et pour revenir sur le film Le Lézard Noir, Mishima, qui est une figure essentielle de la littérature d'après-guerre japonaise, est complètement amoureux de Miwa. Et sauf que c'est un amour qui n'est pas réciproque. Et donc en fait, Mishima se débrouille pour être engagé dans le film où joue Miwa, Le Lézard Noir. Parce qu'en fait, il y a une scène où Mishima joue une espèce de viril statue de muscle qui sert de support masturbatoire à Miwa. Et donc en fait, il y a une scène de baiser entre les deux hommes dans ce film-là. Où d'ailleurs Miwa joue en femme, je pense. Et en fait, l'écrivain se suicide en 1970 et son épouse, parce qu'il était marié, va demander que toutes les copies du film, donc son épouse Kimiko, va demander à ce que le film, donc au Japon, et toutes les copies du film international, enfin toutes les copies qui se sont qui ont été partagées dans le monde, soient complètement détruites pour que la preuve de l'homosexualité de son époux soit complètement cachée et détruite. Et en fait, elle va arriver à ça, elle va réussir à faire en sorte que toutes les copies soient vraiment détruites. Et en fait, on a ici, donc Miwa n'est pas morte, là je dis elle, Miwa n'est pas morte, c'est vraiment une figure emblématique au Japon, et en plus de 50 ans de carrière, même si elle a été adorée, presque sacralisée, etc., elle a cette espèce de réputation de monstre qui continue à la suivre, pas de monstre au centre, au sens horrible, etc., mais vraiment au sens, de quelque chose qui aurait été un produit complet de la société japonaise pour le coup et qui aurait été marginalisé en même temps.
Mais je dirais que c'est un petit peu le revers de la fascination. Enfin, ce que ça m'évoque, si je peux
permettre. Oui,
encore une fois, vu qu'on parlait tout à l'heure de parler à la place d'eux, ou enfin du coup, j'interviens aussi en tant que personne cis, donc c'est-à-dire n'ayant pas eu ce vécu de sentiment de d'étrangeté en fait, mais oui, voilà. Mais là où j'en veux dire, c'est que du coup, la fascination, c'est aussi pas forcément quelque chose de toujours très positif dans les luttes, puisque ça peut être aussi une espèce d'objectivation sublime. Enfin, la sacralisation, c'est comme la représentation. Enfin, je fais un parallèle juste pour peut-être se le représenter, mais je sais pas. C'est toutes les représentations complètement idéalisées de la femme, par exemple, et là, une représentation d'une espèce de une représentation super sacralisée, mais aussi qui du coup éloigne vachement ce personnage, puisqu'on parle justement même de personnage, de l'idée qu'il ou elle est, enfin comment dire, est un sujet, enfin je sais pas si tu vois où je veux en venir exactement, mais la fascination, elle est pas forcément, elle est, je pense que c'est justement un des trucs. Alors, je suis pas dans les luttes trans, etc., mais en lisant un petit peu, je pense que c'est un des trucs contre lesquels luttent pas mal les mouvements trans. Tu vois, je veux dire, la fascination que le transsexuel ou la transsexuelle peut exercer, qui n'est pas du tout ce vers quoi il voudrait aller, puisqu'il voudrait aller dans la pluralité des identités, ouais, etc., quoi.
Mais en fait, là, il se revendique pas comme transsexuel. Il l'est pas d'ailleurs. Il est pas transsexuel.
Tout à fait. Non, c'était pour faire un parallèle,
bien
parce
sûr,
qu'après,
voilà, du coup, je le dis.
Oui,
pas,
t'as tout à fait d'accord. T'as tout à fait raison. C'est plus proche.
Mais justement, pour revenir à ce terme d'objectivation, là pour le coup, il s'est plié à la volonté de la société japonaise. Alors, pour une nécessité professionnelle, ça c'est pas à moi de le dire, ou ça peut s'entendre, ça peut se défendre, j'en sais rien. Il y a cette ambiguïté en fait. De cet homme qui se destinait à être musicien homme, parce que au départ il n'avait pas, enfin après on n'en sait rien, quel tournant aurait pris sa vie, mais a priori à 17 ans il s'est travesti pour pouvoir jouer dans les cabarets, etc. Et comme il était humilié en tant qu'homme dans la société, il s'est plié à ce qu'on lui demandait, donc il s'est travesti en femme de manière quotidienne. Et en même temps il restait donc ce côté-là qui peut être un peu objectivé, justement, il s'est plié à ce qu'on voulait de lui, et en même temps, il restait un sujet.
Ah non, mais par contre, je ne mets pas du tout en cause son vécu, enfin, je veux dire, je ne me permettrais jamais, quoi.
Je sais bien, mais c'était justement pour rebondir sur cette idée d'objectivation. Enfin, voilà, je vais juste conclure là-dessus, cette idée, le fait qu'il y ait cette ambiguïté, quoi.
Bon bah merci pour ton intervention, et on va devoir terminer l'émission parce qu'il est déjà l'heure. On vous met une dernière petite chanson qui s'appelle Pass This On, d'un groupe qui s'appelle The Knife, et on vous laisse en compagnie de Gilles avec son émission My Favorite Thing sur l'actualité jazz, ou en tout cas la musique jazz de manière générale. À bientôt, salut.
Salut.